Une vie, une œuvre. Geneviève de Gaulle-Antonioz, 1920-2002. À l'occasion de son entrée au Panthéon mercredi prochain, Une vie, une œuvre vous invite à la rencontre d'une femme d'action, d'une femme condamnée, dit-on, à l'action par son patronyme et le courage de sa famille, à commencer par son oncle illustre. Un courage qu'elle a fait sien en entrant très jeune en résistance, alors qu'elle n'était encore qu'étudiante. Un courage qui l'a menée au camp de Ravensbrück, où elle fut témoin de l'horreur et du massacre de ses codétenus. Un courage qui l'a poussée à s'engager un temps dans l'action politique, mais surtout auprès des plus pauvres, après sa rencontre décisive avec le père Joseph Wresinski, elle qui présida longtemps ATD Quart-Monde. Geneviève de Gaulle-Antonioz, un documentaire de Victor Massé de l'Épinay et Ghislaine David.
La première fois que je l'ai vue, tout au moins dont je me souvienne, parce que j'avais dû la voir un peu avant, mais là, ça m'avait énormément impressionnée. Un jour, par hasard, après l'appel au camp, on s'est trouvés ensemble à marcher vers notre colonne de travail et elle avait une mine épouvantable. Elle était absolument grise, comme étaient d'ailleurs beaucoup de nos camarades, un teint gris incroyable. Elle avait de la peine à voir, à même ouvrir les yeux et elle marchait difficilement et vraiment je me suis fait beaucoup de soucis pour elle.
Quand j'ai vu Madame Geneviève Antonioz de Gaulle pour la première fois, c'était dans des réunions du mouvement ATD Quart-Monde. Elle était là, présente. C'était une petite femme très, très fragile, mais très, très, très aimable et souriante. Elle ne faisait pas de différence entre elle et nous. Au contraire, elle nous comprenait énormément, vu qu'elle-même, elle a souffert. Elle nous comprenait notre souffrance des familles en pauvreté.
La Fond de l'Opéra à Paris, peint par Chagall avec deux, trois assistants, a été peint à la Manufacture des Gobelins, où nous habitions. Et à l'époque, Chagall a écouté Mozart sur le Tepas d'Isabelle, ma sœur. Chagall voulait avoir des fleurs, donc ma mère trouvait le temps de lui faire des bouquets de fleurs, ce qu'elle faisait merveilleusement. Presque tous les bouquets qui sont représentés par Chagall sur le plafond de l'opéra sont des bouquets de fleurs que maman lui a fait et qu'il a peint.
Quand je lui ai succédé, qu'elle est décorée par Chirac de la Grand Croix de la Légion d'honneur, la première femme, on lui la remet, elle est toute menue et ça pend jusqu'en bas, les trucs qu'on lui met en travers. C'est très symbolique. Ça silhouette le personnage. C'est la discrétion même, qui va de pair avec une force interne, une force intime extraordinaire. La force des menus ramassés comme ça, vous savez, c'est pas des colosses, c'est l'inverse, c'est une espèce d'intimité rayonnante.
Le père Joseph Wresinski croit fermement que chaque être humain est capable de se transformer si on lui ouvre les chemins de la connaissance, les riches comme les pauvres. Sur cette certitude, il a construit son espérance. Au rendez-vous des droits de l'homme, on n'avance que par un échange. J'en suis comme lui persuadé. Mais pour moi, la toile de fond reste toujours les crimes contre l'humanité. Où commence le refus conscient, organisé, de l'égale dignité de chaque personne ? Je ne peux pas examiner ma propre conscience, la démocratie, mon pays, mon église, en oubliant Barbie. Les roses blanches et les sonates de Brahms ne parviennent pas à me détourner de l'interrogation fondamentale. Geneviève de Gaulle-Antonioz, Le secret de l'espérance.
Moi, c'est une question que je me suis toujours posée. Je me suis toujours demandé comment se faisait-il que les uns acceptaient, les autres n'acceptaient pas. Après tout, moi, j'avais des amis de mon âge, de ma génération. Après, quand j'étais déjà en fac, j'avais des camarades d'étudiants. Je ne dis pas qu'ils étaient très contents de l'occupation, mais enfin, tout, ils en prenaient quand même leur parti. J'en ai retrouvé en rentrant de déportation, très gentils d'ailleurs, mais ils avaient continué leurs études. C'était un peu planqué pour ne pas faire le STO, mais enfin bon, c'était des garçons, les filles, ben, elles avaient passé leurs examens. Alors pourquoi ? Ça, je ne sais pas. Il y a une espèce de frontière qui passe dans le cœur de, des gens. Je n'ai absolument pas lié ni à leur, leur conviction politique, puisque j'ai connu des gens de toutes sortes, aussi bien communistes que d'Action française. Et j'ai connu des gens de toute éducation, de toute formation. C'est comme ça, c'est comme ça. Il y a quelque chose que moi j'appellerais l'inacceptable, l'intolérable, l'inacceptable, devant lequel on ne peut pas prendre son parti.
Vraiment, je pense qu'on n'entre pas dans la résistance par hasard. Il n'y a absolument pas de hasard, c'est un véritable engagement, et il faut donc être préparé.
Frédéric Naud-Dufour.
Geneviève de Gaulle, elle a tous les ingrédients en elle, exactement comme Charles de Gaulle à la même époque, et exactement, on pourrait le dire, comme beaucoup d'autres résistants. Alors c'est vrai, on dit c'est un réflexe patriotique. Bien sûr, il y a du patriotisme en elle, il y a cette espèce de vexation ultime de voir les Allemands entrer sur le sol français. Mais il y a bien plus que ça. Et il y a vraiment ce rejet de l'idéologie nazie qui est en elle à cette époque-là. Geneviève de Gaulle, comme les vrais résistants, on pourrait dire, entre en résistance non pas le 18 juin à la suite de l'appel, mais bien le 17 juin. Le 17 juin, c'est la lecture à la radio par Pétain de l'appel à l'armistice. C'est le cœur serré que je vous dis qu'il faut cesser le combat. Et c'est ça qui provoque en elle une espèce de réaction furieuse. C'est pour elle insupportable et intolérable. Et d'ailleurs, on peut rapprocher cette réaction de celle de Germaine Tillon, qui va être aussi cette grande résistante et cette grande amie de Geneviève de Gaulle, qui, lorsqu'elle entend le message de Pétain, sort dehors et vomit. Donc on a exactement cette réaction ulcérée, qui est d'abord une réaction instinctive. Et Geneviève de Gaulle aimait citer cette très belle phrase de Bernanos, « L'honneur est un instinct comme l'amour ». Et c'est véritablement un instinct qui lui fait rejeter ça et qui va ensuite enclencher quelque chose de beaucoup plus rationnel.
C'était comme toujours l'ensemble de sa famille, et notamment de son père, par exemple... Son père lui a donné à lire Mein Kampf quand elle avait 13 ans.
Anise Postel-Vinet.
Puis elle avait eu une enfance très douloureuse.
Elle ne s'était jamais remise de la mort de sa mère et de sa sœur. Et ça forme des personnalités.
Et puis elle avait, dans une partie de son adolescence où elle était en pension à Metz, qui avait des week-ends et des vacances qu'elle passait chez son oncle Charles. On parlait beaucoup de choses très sérieuses pendant les repas, on s'amusait aussi. Je crois qu'elle blaguait beaucoup, c'était un très bon souvenir de son enfance.
Xavier de Gaulle est né en 1897, c'est donc l'aîné de toute la fratrie de Gaulle, c'est le grand frère. Et il fait des études assez brillantes, il est ingénieur des mines, ce qui explique que Geneviève va naître à Saint-Jean-de-Valériscle, dans le Gard, où il y a des mines. Et puis, au moment du décès de sa femme, il se trouve en poste en Sarre allemande. Donc une région qui est en Allemagne, dans l'Allemagne qui est en train de vivre une période politique extrêmement troublée, surtout dans la Sarre qui va bientôt être soumise à un référendum pour savoir si elle choisit de retourner dans le Reich. Et Xavier de Gaulle fait partie d'une famille qui est politiquement extrêmement vigilante. C'est une famille catholique, mais ralliée à la République, de toute évidence, et baignée par un attachement au catholicisme social. C'est une famille où on défend des valeurs d'altruisme et on est plutôt anti-réactionnaire. Cette famille, lorsque Xavier était tout bébé, s'est engagée en faveur du capitaine Dreyfus. Et cet engagement, il continue à imprégner les descendants, puisque, par exemple, au moment des accords de Munich, tous les frères de Gaulle vont être anti-munichois et vont condamner le fait que la République cède une fois de plus aux exigences d'Hitler. Et à côté de cet extrême éveil à ce qui se passe en Allemagne, il y a en même temps une éducation que Geneviève de Gaulle décrit elle-même comme extrêmement généreuse, extrêmement soucieuse du prochain. Elle explique que son père exigeait de ses enfants un immense respect, par exemple, pour les domestiques, pour les gens de plus petites conditions, entre guillemets, et le tout dans un catholicisme qui est avant tout une fraternité et une proximité avec autrui.
Et la Sarre, comme vous le savez, est administrée par la SA Société des Nations. Il n'y avait que l'exploitation des mines qui était attribuée à la France. Non, pour nous, c'était une sorte d'exil. Je ne l'ai pas senti quand j'étais toute petite, mais au fur et à mesure que je grandissais, je sentais bien que nous étions des intrus dans ce pays. Et quand le plébiscite a eu lieu, alors tout à coup, on a vu déferler la vague nazie. C'est-à-dire, moi je me souviens de Sarrebruck avec tous ces drapeaux à croix gammée, mais vraiment, il n'y avait pas une maison qui ne portait son drapeau à croix gammée. C'était prodigieux. Et il y a eu les premiers pogroms de synagogues, à peu près tout de suite. Ils étaient dans la gueule du loup, là, les pauvres Sarrois. Il n'a pas essayé à un moment donné de faire appel, par exemple, au curé Sarrois, qui était des personnages importants. Alors on faisait des dîners de curé Sarrois à la maison. On leur faisait immanquablement, comme dessert, un gâteau spécial qui s'appelait le Saint-Cyr au chocolat. Ça n'a rien changé. Mais vous savez, la Sarre, c'est pour moi surtout le plus tragique, c'est que c'est là que maman est morte. Maman est morte quand j'avais 4 ans et demi, et elle est morte à la naissance d'un enfant. Enfin, ça a été très très mal soignée de septicémie. Et maman avait 27 ans, elle était une femme que tout le monde... peut-être pas belle, mais très jolie en tout cas, et très, très attachante, très vive, très tendre. Et mon père avait été avec elle vraiment comblé de tendresse. Et mon père avait été 7 ans sous les drapeaux, comme les gens de sa génération. Et quand il s'est marié, il a découvert le bonheur, en même temps que la tendresse. Et puis ça a duré 5 ans et demi, donc, puisque j'avais 4 ans et demi quand maman est morte.
Oui, c'est une toute petite fille, c'est l'aînée d'une jeune fratrie à l'époque, on est en 1925, et sa mère va mourir brutalement en accouchant d'un 4e enfant. Pour Geneviève, évidemment, et pour le reste de la famille, c'est un événement tragique et complètement inattendu. Donc il y a vraiment quelque chose d'indépassable, de fulgurant à ce moment-là, et en même temps, cette mort va lui assigner un rôle important dans la famille auprès de son père, qui visiblement est très éprouvé par le deuil et a du mal à faire ce deuil. Et Geneviève va se porter au secours de son père. C'est comme ça qu'elle le raconte, du moins très simplement, sans héroïsme ou sans vouloir se mettre en avant, mais en disant qu'elle a aidé ce père, qu'elle sentait qu'auprès d'elle, il pouvait trouver une source d'énergie, qu'elle l'accompagnait à des concerts, elle l'accompagnait dans des marches dans la forêt, et ainsi elle l'aidait à continuer à vivre. Ce père qui arrivait si peu à faire le deuil qu'il lui arrivait de mettre le portrait de sa femme à table encore. C'est quand même terrible. Donc ça, c'est d'abord le côté de Geneviève qui se porte au secours des autres à l'âge de 5 ans. Et puis en même temps, il y a un autre événement concomitant qui est que ce père va se remarier, parce qu'à l'époque, un veuf avec des enfants en bas âge ne peut pas rester seul. Et que Geneviève, on peut le dire, même si elle avait de l'affection pour cette nouvelle belle-mère, a quand même mal vécu cet épisode. Et son frère Roger, qui avait également un caractère très entier, a dit « c'est à ce moment-là que ma sœur est entrée en résistance, parce qu'elle n'a pas accepté ce dénouement. »
Pourquoi éprouvez-vous le besoin, Geneviève de Gaulle, d'aller distribuer ce journal dans la rue ?
Parce qu'on voulait que les Français n'aient plus la trouille. C'était l'idée, c'était « Français, libérez-vous de la crainte ». On se disait, quand on commence à distribuer un journal ouvertement, les gens doivent se dire « Ah ben les Allemands ne sont pas si forts que ça, quand même ». Ça paraissait un peu immature, et ça ne l'était pas du tout, en fait, parce que ce n'était pas très dangereux. On faisait ça, on prenait quand même quelques précautions. Moi, j'ai distribué dans le métro. J'ai vu là, rougir de fureur la nuque d'un officier allemand qui avait réussi à lire le gros titre. Mais qu'est-ce qu'il va si vous ne pas tirer au milieu de la foule. Je suis barré tout de suite après, d'ailleurs. Je l'ai distribué à la sortie d'une église, à Saint-Christophe de Javel. Et là, on voyait les gens. Il y avait les gens qui le regardaient, qui le déployaient, qui étaient tout contents. Il y avait ceux qui avaient un peu peur, qui pliaient, qui mettaient dans leur poche. Mais quelques-uns, très peu, qui le jetaient en boulette tout de suite. Il y a des gens qui n'avaient pas du tout peur. Moi, j'ai une camarade qui n'avait jamais peur. Ça l'amusait même. Moi, je n'étais pas comme ça. Moi, j'avais des moments, d'ailleurs, inattendus, où tout à coup, en arrivant à un rendez-vous, je me disais, ça y est, je suis piégée, je suis sûre que je suis piégée. Et c'était complètement à côté, je n'étais pas piégée du tout. Et le jour où je l'étais, je n'avais pas le moindre pressentiment. Mais bon... En fait, quand j'ai été arrêtée, c'est très curieux, j'ai eu une espèce de sentiment de soulagement, presque, et même de joie intense, comme quelqu'un qui arrive à une nouvelle étape. Je me souviens que dans la voiture cellulaire qui me ramenait à la prison de Fresnes, après le passé à la rue des Saussets, j'ai chanté l'hymne à la joie la 9e symphonie de Beethoven, où il y a des quelques paroles qu'on appelle l'hymne à la joie. La joie énorme, joie terrible du sacrifice total. C'est vrai, tout à coup. Peut-être qu'on est devant une exécution capitale, ça peut arriver aussi, tout à coup.
Je savais qu'elle avait diffusé, qu'elle était arrêtée, elle était étudiante en histoire et membre d'un réseau où elle diffusait dans le métro les tracts de défense de la France, notamment.
Paul Bouchet.
C'est une femme engagée, mais non totalitaire. C'est pas une dogmatique. Elle est très croyante, elle est tout ce que vous voulez. C'est le contraire des gens enfermés dans une doctrine, des uns ou des autres. Elle respectait le pluralisme. Quand elle est arrêtée sur le quai, où elle va partir avec son numéro, le 23 000 et quelques, ils sont là sur le quai, et on appelle les noms. Et quand on appelle le nom de Gaulle, toutes les femmes de tous bords se mettent à applaudir. Des femmes qui vont partir pour le camp et peut-être pour la mort. Il faut que les SS menacent de lâcher les chiens pour faire taire le monde. C'est magnifique comme symbole. C'est ça, Geneviève. Elle ne crée pas des événements artificiels. Et là où elle est, c'est ça.
Quand j'étais dans la prison de Fresnes, il y avait une lueur, une réponse parfois, même pendant le terrible voyage vers Ravensbrück. En entrant dans le camp, c'était comme si Dieu était resté à l'extérieur. À la lueur des projecteurs, nous avons aperçu des femmes qui portaient de lourdes cuves. À peine avais-je remarqué leurs silhouettes vacillantes, leurs crânes rasés, mais j'avais été foudroyée, pour toujours, par la vision de leur visage. Aucun condamné à mort, aucun torturé parmi ceux que j'ai rencontrés n'était marqué de cette façon, par une détresse inhumaine. Ces êtres, encore vivants, n'avaient déjà plus de regard. J'aurais dû éprouver de la compassion. Ce qui m'atteignait, c'était le désespoir. « Vous qui entrez, laissez ici toute votre espérance, » dit Dante de l'enfer. Geneviève de Gaulle-Antonioz, La traversée de la nuit.
Elle a appris ce que c'était que la fraternité, une très très grande fraternité qui est restée en nous quelque chose de très profond. Parce que c'était la vie ou la mort. Si on n'avait pas un minuscule groupe d'amis, une espèce de petite famille, on ne pouvait pas survivre. Parce que dès qu'on avait un ennui, quand on était deux ou trois, immédiatement, la camarade cherchait un cachet d'aspirine ou une paire de chaussures quand on vous l'avait volé, parce qu'il fallait absolument avoir des chaussures. Et c'était une aide immédiate. Et Geneviève a retrouvé au camp, justement, son amie Jacqueline Delincourt, qu'elle connaissait d'avant. Et alors, elles ont formé à deux une petite paire qui était très importante, puisque Jacqueline était très, très débrouillarde et Geneviève était épuisée très vite au camp. Elle a été dans différentes colonnes, souvent changée et souvent très dure, y compris cette dernière colonne qui était la colonne de remise en état des uniformes SS, où on apportait aux femmes des uniformes qui revenaient du front dans un état épouvantable, d'abord
de crasse, de sang, de boue, de matière fécale. Et il fallait découdre et essayer de récupérer le moindre petit bout de tissu qui pouvait être réutilisable. Et tout ça à un rythme effrayant. Et le SS qui dirigeait cet atelier était un vrai sadique. Et il s'en est pris à Geneviève, qui était non seulement giflée, mais battue, jetée par terre. Et c'est là qu'on a compris que si on ne la sortait pas de là, elle aurait été achevée, comme d'autres étaient achevées. Elle avait assisté à la mort d'une de nos camarades qui avait été tuée à coups de battoir à linge. Elle avait trouvé que c'était non seulement horrible, mais très long. Et nous, on avait peur qu'il lui arrive la même chose.
Elle ne l'a pas su sur le moment, mais Himmler a eu l'idée, à un moment donné, de proposer à De Gaulle de faire un échange entre un certain nombre de membres de sa famille qui étaient en prison ou déportés.
Philippe Antonioz.
Et des dignitaires, enfin, qui avaient été faits prisonniers. Donc, il a demandé au commandant du camp de la mettre à l'écart. De nuit, comme ça, on vient la chercher et tout le monde pense que, voilà, que c'est terminé. Elle aussi. Et finalement, elle se retrouve donc dans la prison du camp. Et les heures passent, les jours passent, sans manger, sans boire. Tout d'un coup, il y a une gardienne qui ouvre la porte et qui dit « Mais qu'est-ce que vous foutez là ?» Et elle n'a pas été prévenue. Donc on peut aussi imaginer que dans ce côté comme ça, très méthodique, très géré économiquement, germanique comme ça, mais dans le même temps, il y a des failles. On peut imaginer que si cette femme n'avait pas ouvert la cellule, bah, elle aurait pu être oubliée, mourir de faim. Du coup, il l'aurait découvert. Je pense que Himmler aurait fait, là, peut-être dit, c'est dommage. Bon, De Gaulle a naturellement refusé l'échange. Alors, ce séjour dans le cachot va lui permettre, dans le noir du cachot, de soigner ses yeux. Et dans le même temps, il fait tellement froid qu'elle attrape une grave maladie des poumons, avec la pleurésie. Et elle est donc moins en danger de risquer d'être battue par une SS et emmenée à la chambre à gaz, etc. Mais en même temps, loin de ses camarades, donc aussi dans une solitude terrible.
Elle a énormément souffert de la solitude. Elle a eu là 4 mois de solitude. Et ses camarades lui manquaient terriblement. Et moi, j'ai compris ça parce que quand j'étais arrêtée, j'ai passé un an entier toute seule dans ma cellule. Et je venais d'une famille nombreuse avec plein d'enfants qui s'amusaient beaucoup. J'ai trouvé ça terrible. J'ai même trouvé ça plus terrible que le camp. D'abord, le camp, moi, j'ai eu cette chance incroyable d'entrer au camp avec Germaine Tillion et d'y avoir partagé la même paillasse pendant près de 2 ans. Et ça, c'était une aide extraordinaire. C'est assez intéressant de voir que la fraternité, c'est une notion qu'elle a approfondie et que, comme certains chrétiens de notre époque, elle a... Enfin, je pense, parce qu'elle n'a jamais été aussi précise que ça dans sa pensée, mais que comme le pasteur Bonhoeffer allemand, qui avait vu au fond cette espèce de retrait du christianisme, et bien que sans doute dans l'avenir, Dieu lui-même serait remplacé par la fraternité. Et c'est intéressant que Geneviève ait fait ce même chemin.
Alors effectivement, le retour des camps, elle ne voulait pas simplement parler des camps, mais parler de la leçon des camps. Elle disait que l'Allemagne, c'est un des plus grands peuples civilisés, y compris sur le plan juridique. Parlons pas du plan de l'art, elle était très sensible à l'art, travaillait avec Malraux, après comme son mari. C'est ce peuple-là qui se reconnaît dans le nazisme, c'est quand même terrible. Elle posait les vraies questions. Raconter les camps, les gens veulent vous faire raconter comment vous étiez traité. Bon, alors on raconte comme elle a dit, mais je peux raconter à perte de vue quand on fait tomber les gamelles et qu'il faut que les gens les lâchent par terre. Je peux raconter tout ce qu'on veut, c'était terrifiant des camps. Mais qu'est-ce que ça apprend? Ça apprend une espèce de commisération, une espèce de pitié, une espèce de compassion. C'est pas la compassion qu'elle veut, elle. C'est la justice, c'est l'égale dignité. Quand elle rentre des camps, qu'elle va voir l'oncle Charles. Et il habite Neuilly à l'époque. Il s'est réinstallé au ministère de la Défense, symboliquement. Et il lui dit de raconter les camps. Et il dit, je vois les larmes dans ses yeux. Et il lui dit à peu près, je sais encore plus pourquoi j'ai combattu.
Après la Seconde Guerre mondiale, très très rapidement après, dans les mois qui suivent, Geneviève de Gaulle et les survivantes de Ravensbrück, notamment ses amies Germaine Tillon, Anis Postel-Vinet, décident de s'unir, de continuer ce combat de solidarité qu'elles ont mené à l'intérieur du camp, de le continuer après la guerre, tout simplement parce que les déportées femmes rescapées sont dans un dénuement complet pour la plupart. Celles qui n'ont pas de famille reviennent, elles n'ont rien. Et elles décident de créer l'association des déportés et internés de la résistance, l'ADIR, pour leur venir en aide, donc à la fois pour continuer le combat d'une certaine façon, et ça on le retrouve chez beaucoup de déportés, hein, qui ont mis en place des idéaux à préserver lorsqu'ils étaient dans les camps, mais aussi, et ça doit être assez spécifiquement féminin, pour créer les conditions d'une aide sociale, mais pas que, également morale, également juridictionnelle. Et j'ai l'impression que cet ADIR a eu un panel d'actions beaucoup plus diverses, beaucoup plus riches que dans les associations masculines.
Elle a pensé qu'il fallait vraiment aider les camarades qui rentraient en très mauvais état à retrouver une santé. Et voilà ma Geneviève qui, crevée comme elle était, à l'idée de donner des conférences à travers la Suisse et pour récolter de l'argent. Et là, je ne me souviens pas pourquoi et comment, mais j'ai été chargée de l'accompagner dans des associations, dans des paroisses. On a eu beaucoup de peine à se faire entendre et au fond, on y a assez vite renoncé. Et c'est revenu plus tard, le moment où on a organisé des témoignages dans les écoles. C'est pas mal plus tard, mais ce fameux retour a été tellement dur que on avait un peu abandonné l'idée de faire connaître tout cela. Et quand on a créé notre petit bulletin, c'était surtout pour aider et soutenir nos camarades. Ça avait un but social, humain. Et bien sûr, peu à peu, on s'est quand même intéressé au monde contemporain, aux droits de l'homme. On a continué à se battre pour nos idées.
À ce moment-là, avec Germaine Tillon, ils ont l'idée de ce livre sur Ravensbrück. Et une des maisons d'édition possibles, puisque en gros, il y a eu les éditions Segers, éditions de Minuit, un certain nombre de maisons d'édition comme ça, qui ont été les maisons d'édition résistantes en dehors des journaux, il y a les Cahiers du Rhône. Donc mon père, avec son professeur de philosophie, Albert Béguin, a fondé les Cahiers du Rhône, qui s'était donné comme mission de continuer à publier, à faire connaître, à passer sous le manteau tous les auteurs, principalement des poètes, Supervielle, Bernanos, Paul Éluard, Aragon, etc., Pierre-Emmanuel, qui étaient interdits par les autorités pétinistes, collaborationnistes. Et le livre de Ravensbrück a été au départ mis en chantier avec donc les éditions de la Baconnière qui publiaient les Cahiers du Rhône. Et donc mon père et ma mère se sont rencontrés à Genève. Leur histoire d'amour est très forte. Ça a été une vraie grande rencontre.
Les filles jeunes de notre âge, on s'est mariés à toute vitesse. Geneviève nous le rappelait de temps en temps sévèrement. Elle nous disait, et n'oublie pas que Bernard et moi, nous avons retardé notre voyage de noces de 8 jours pour venir à ton mariage.
Donc, la libération, De Gaulle qui devient président du Conseil, je crois que malheureusement, il n'est pas ministre de la Culture, il est ministre de l'Information. Et c'est un travail tout azimut. Par exemple, ma mère a contribué à la création du CNRS. C'est des choses que les gens connaissent peu.
Bien sûr, moi j'en rêvais de rencontrer Malraux, qui n'en rêvait pas. On était très intimidés en même temps. Ce truc, Malraux était beaucoup plus intimidant que le général de Gaulle. Parce que j'arrivais pas à comprendre la moitié de ce qu'il disait. J'ai toujours très bien compris ce que disait le général de Gaulle. Et tous les Français, d'ailleurs, comprenaient très bien. Il avait vraiment le don de se faire comprendre. Et André Malraux, que vous le lisiez, c'était déjà pas très facile. Il fallait quelquefois recommencer la lecture une deuxième fois, une troisième, ça dépend des degrés. Mais quand on l'écoutait, ça allait vraiment très très vite. Moyennant quoi, Malraux était si gentil, alors Malraux était extrêmement gentil, extrêmement bienveillant, qu'il finissait par vous rattraper et on sortait de là en se disant « finalement, je ne suis pas si bête que ça ».
Très tôt, quand ils sont, juste après leur mariage, ils sont installés à Paris dans un appartement qui était un appartement qui avait été occupé par des gens qui étaient disparus en camp de concentration et qui leur étaient attribués en priorité. Dans cet appartement petit, puisque nous, on était les 4 enfants dans la même chambre, eux étaient dans un coin de salon qui se fermait avec des portes-fenêtres, et il y avait ma grand-mère sur un divan dans le salon, sont venus, ben voilà, Chagall, Le Corbusier, et puis après, plus tard, des plus jeunes, Zhao Vouki, André Baudin, naturellement, des artistes, des poètes, mais dans le même temps, il y a... Ce qu'on oublie souvent, c'est que l'engagement des résistants est aussi un engagement avec une envie de faire avancer des réformes, et en particulier donc cette rencontre avec André Malraux, qui a très tôt l'idée de faire un ministère de la culture.
De demander la culture alors qu'ils ne savent pas ce que c'est. Je dis clairement, nous tentons la culture pour chacun. Cette tentative veut dire que nous devrions, dans les 10 ans, avoir en France une maison de la culture par département. Par conséquent, ne jouons pas à une maison de la culture par an, bien gentiment. Jouons sérieusement, en sachant, messieurs, que ce que je demande, c'est exactement 25 kilomètres d'autoroute. Pour 25 kilomètres d'autoroute, nous maintenons que la France, qui a été le premier pays culturel du monde en son temps, pour cette somme misérable, nous pouvons faire que dans les 10 ans qui viendront, nous restions le premier pays culturel du monde. Voilà exactement ce que j'avais à vous dire et ce que j'avais à vous demander.
Dans les années de travail de mon père ensuite, il est devenu donc chef, ce qu'on appelait chef de la création artistique, c'est-à-dire de département des artistes vivants à l'intérieur du ministère de la Culture, comme il y a un département de la musique ou du théâtre ou des musées. Et donc, à ce titre, il a fait, avec André Malraux, aussi bien les constructions d'ateliers d'artistes, le plafond de l'opéra...
Nous avions eu, mon mari et moi, une vieille amie qui était une femme admirable, femme du monde en même temps et d'un dévouement absolument extraordinaire, d'une bienveillance totale. Elle s'appelait Madame de Brancion. Et elle a voulu nous inviter un soir à dîner avec quelqu'un qu'elle tenait absolument à nous faire rencontrer et qui était le père Joseph Wrzeszczyński. Alors, le père Joseph Wrzeszczyński était un homme modeste qui ne parlait pas énormément. Elle avait beaucoup de peine à le faire dire un peu dans quelles conditions il était. Mais enfin, il en a dit quand même suffisamment pour que, quand il m'a demandé de venir voir où il vivait et ce qu'il essayait de faire, j'accepte. En fait, j'avais du travail par-dessus la tête, parce que le cabinet de ministre, c'est vraiment pour une mère de famille de 4 enfants, le dernier fils n'avait pas encore 4 ans, c'était vraiment un cauchemar, une course contre la montre perpétuelle, donc je n'avais pas tellement envie de faire encore autre chose en plus, mais il me semble qu'il y a quelque chose qu'on n'a jamais le droit de refuser, c'est de connaître, de savoir. On ne peut pas toujours engager une action, ce n'est pas toujours dans les moyens, nos forces humaines, elles sont limitées. Mais au moins, on doit accepter de savoir. C'est le premier pas qu'on doit faire.
Alors, Wrzeszczyński était le fils de 2 immigrés. Un immigré polonais et une immigrée espagnole. Il avait été élevé dans le quartier pauvre d'Angers. Il ne parlait pas de théorie comme maintenant, on va voir les ghettos, comme s'il n'y avait jamais eu de trucs de pauvres. Alors, Wrzeszczyński, il avait vécu la misère. Et Geneviève, elle avait vécu Ravensbrück. Quand elle arrive au camp de Noisy-le-Grand, c'est des baraques de l'abbé Pierre qui ont été élevées. Mais on n'a rien trouvé d'autre comme terrain qu'un ancien terrain de décharge où grouillent les rats.
Alors je suis allé là-bas. On n'y allait pas facilement d'ailleurs à l'époque. C'était des lieux à l'écart de tout. Les autobus s'arrêtaient loin. D'ailleurs le bidonville était même pas. Il n'y avait même plus de route à ce moment-là, plus de rue. Il y avait de la terre boueuse parce qu'il pleuvait beaucoup. Et j'ai été très très vite frappée par les premières rencontres que j'ai faites à côté du père Joseph, qui était les hommes et les femmes du capitaine là, et qui disaient bonjour. Mais j'ai rencontré des visages humains, j'ai vu des visages humains où j'ai retrouvé quelque chose de ce que j'avais moi connu sur les visages de mes camarades de Ravensbrück. C'est-à-dire. Le visage reste toujours un visage d'un homme ou d'un être humain, mais il perd cette espèce de rayonnement qu'a chaque être humain comme ça en lui.
Ça ne m'a pas étonné qu'elle a été très secouée par sa visite de Noisy-le-Grand. Mais finalement, là, nous n'avons pas été tout à fait d'accord. Ça nous arrivait d'ailleurs souvent d'être pas du même avis, et ça c'est normal. Parce que j'ai trouvé que cette comparaison avec le camp n'était tout de même pas tout à fait exacte, parce que quand même, ces gens qui étaient pauvres, ils n'étaient pas comme dans un camp complètement menacés de mort le jour ou la nuit. C'était quand même pas... Et elle disait aussi que l'expression des gens qu'elle découvrait à Noisy était la même que celle de nos camarades. Mais moi, j'ai rencontré souvent des gens de Noisy, avec Geneviève d'ailleurs. Mais non, c'était pas comparable. Mais elle l'a ressenti comme ça, faut croire.
Je ne comparerai jamais un bidonville à un camp de concentration. Ça n'a rien à voir. Les gens qui étaient là, ils n'étaient pas là pour être détruits. C'était les circonstances, la misère qui les détruisait. Mais finalement, vous savez, quand on n'a pas d'eau pour se laver, quand on n'a pas d'endroit pour dormir vraiment, quand on n'a pas de culture parce qu'on ne peut même pas y accéder, parce qu'on ne peut même pas imaginer avoir un livre, d'ailleurs est-ce qu'on sait lire, etc., finalement, on arrive quand même à des expériences qui, en tout cas, permettent de s'y reconnaître. Moi, je sais ce que c'est que l'humiliation de sentir mauvais. Quand j'ai trouvé sur mes amis de Noisy, du camp de Saint-Logis de Noisy, j'ai reconnu l'odeur que je connaissais bien, que j'avais portée sur moi-même. Je ne sais pas comment vous expliquer mieux. Ça n'est pas du tout la même chose. Et bien entendu, et heureusement. Mais il y avait quand même des conséquences qui finissaient en tout cas, que des vies humaines puissent se poursuivre comme celle-là, dans ces conditions-là, et que des enfants continuent cette destinée-là, ça ne me paraissait pas possible après à Ravensbrück. Mais vous savez, Malraux dit quelque part, je n'ai pas retrouvé d'ailleurs l'endroit, mais qui cherchait le point où le mal absolu et la fraternité se rencontraient. Et je sens ça extrêmement profondément. Je pense que quand on a été touché par le mal absolu, la seule réponse a été la fraternité. On n'en a pas d'autre.
Père Joseph, est-ce que vous avez l'impression que notre société est intolérante aux pauvres aujourd'hui ?
Elle a toujours été intolérante aux pauvres. Mais je crois que aujourd'hui elle l'est plus que encore autrefois, plus certainement. Autrefois, quand on parlait de pauvreté, il me semble, moi tout au moins pour ce qui est de mon expérience, il y avait, si vous voulez, comme une sorte de, je veux dire presque de sympathie pour des gens qu'on considérait comme n'ayant pas eu de chance. De plus en plus, j'ai l'impression, c'est d'ailleurs ce que le mouvement constate, que cet intérêt plus ou moins humain disparaît. Les gens sont agressifs quand on leur parle de pauvreté, quand on leur parle surtout de sous-prolétarisation. On sent un parti pris d'hostilité. On dit c'est leur faute, ils aiment bien être comme ils sont. Ils l'ont bien voulu.
Ils l'ont mérité.
Rien pour s'en sortir. Autrefois, on disait ils l'ont mérité. Aujourd'hui, c'est presque pire. On dit au fond, ils font rien pour s'en sortir. Ils aiment être comme cela. On arrivera même à dire c'est leur choix de vie, ce qui permet à ce moment-là de dire c'est pas notre responsabilité. C'est de la leur, ou alors c'est la responsabilité des instances nationales, administratives. Ce n'est pas notre affaire.
La Dédé, vous savez, il y avait l'abbé Pierre qui avait réussi à faire une percée, le fameux appel. Et après, ça tournait en rond. Les gens avaient trouvé l'abbé Pierre. Il avait sa silhouette caractérisée. On se débarrassait du problème. On faisait venir l'abbé Pierre. Comme on fait venir des experts sur n'importe quoi. Fort heureusement, la Fondation Abbé Pierre, elle a relevé les gants maintenant. Ils ont fait leur journée contre la misère, ils essayent de prolonger l'action. Mais le danger, c'est qu'on devienne des symboles purs. Et à ce moment-là, on n'est plus entendu, on est attendu comme dans le fracas des médias. C'est pas ça, l'action continue. Alors elle dit, quand je m'engage en acceptant de remplacer le père Alzaski, je sais que c'est pour la vie. Elle dit ces phrases. Elle s'engage pour la vie, jusqu'à sa mort. Elle était là, elle leur disait, ben oui, on s'occupe de vous. Attendez, venez, il y a une université Carmonde tel jour. Si vous voulez témoigner, vous pouvez venir. Les universités Carmonde, c'était ça. C'est des gens qui parlent eux-mêmes.
Geneviève de Gaulle refusait que son nom soit écrit avec un trait d'union. Mais je pense que c'est parce qu'elle-même, elle est un trait d'union. Elle est sans arrêt un trait d'union entre des parties de la société qui n'étaient pas appelées à se rencontrer. Elle va réussir à amener les gens du quart-monde dans les enceintes de la République, du Conseil économique et social, de la présidence de la République. Elle fait le trait d'union entre la boue, le froid, les conditions misérables de ces gens qui vivent dans des maisons en carton, et puis l'art contemporain. Elle les fait venir chez elle, où elle a des tableaux de Chagall, où on parle de Picasso. Et elle va sans cesse vouloir faire circuler la connaissance, faire circuler la beauté partout où elle le peut. Et elle va sans cesse essayer d'unir les gens.
Je l'ai côtoyée pour plusieurs réunions, déjà pour une première un rendez-vous avec le président Mitterrand.
Morissette Simon.
Avec d'autres familles de certaines différentes régions. Elle nous a appuyé vraiment parce qu'elle connaissait les histoires qu'on voulait lui expliquer. Elle me disait, il faut garder votre calme, hein, surtout. Et la dame, que je me rappellerai toute ma vie, c'est quand la dame elle a été présenter son problème à Mitterrand en disant, j'ai accouché, on m'a enlevé mon enfant dès la naissance, j'ai même pas eu le temps de lui faire un bisou, on me l'a enlevé. Il a été outré en disant, ah bon ? Ah bon, deux fois, et moi j'étais dans mon fauteuil, j'étais là, Geneviève Antonio de Gaulle, elle m'a vu que je voulais bondir, alors avec des petits gestes délicats, parce que vu qu'elle était à côté du président, elle me faisait signe, en me disant calmez-vous, calmez-vous, et elle me contrôlait. Je dis en moi-même, parce que j'étais furieuse, en disant un président n'est pas au courant de tout ce qu'on nous a subi. Et à la fin, elle était contente, elle m'a dit vous avez été calmée, elle me dit je vous remercie. Voilà, ça a été un grand souvenir avec elle. Par contre, on a eu plusieurs réunions avec elle pour voir les lois qu'elle voulait demander, comme l'AMG, l'aide médicale gratuite et tout ça, le droit au logement vraiment, absolument. Et c'est une petite bonne femme, je le dis comme ça, parce que moi, c'est comme ça, je le vois, vous voyez, une petite bonne femme très compréhensible. Elle comprenait tout ce qu'on souffrait et a répété, quand elle avait des réunions avec plusieurs gouvernements, a répété, mais pas par ses mots à elle, par nos mots à nous, comme on lui disait. Et ça, j'ai trouvé ça, c'est aussi très formidable. Parce qu'il y en a qui déforment les mots, où ils mettent leurs mots à eux, qui ne veulent peut-être pas dire la même chose, des fois. Et elle répétait ce qu'on lui disait.
Là, elle remplace le père Rezinski au Conseil économique et social. Le père Rezinski avait fait voter un rapport sur la lutte contre la pauvreté, qui s'est élargi aux exclusions. Mais il n'y avait pas eu de débouché législatif. Geneviève rentre sur les pas du père Rezinski, c'est le cas de le dire, et elle obtient de faire un rapport complémentaire. Ce rapport complémentaire, c'est celui qui va déboucher sur la demande d'une loi. Ce que souhaitait le père Rezinski, mais ça n'avait pas débouché dans le premier rapport. Elle fait voter le rapport qui sera le rapport le plus diffusé de tous les rapports du Conseil économique et social. C'est quand même intéressant à savoir. La lutte contre la pauvreté devient un truc essentiel. Avant, il y avait des trucs sur le logement, sur le RMI, sur l'éducation, tout ça, c'est parcellaire, ce qui est bien. Mais c'était la vision d'ensemble. C'est l'abolition de la pauvreté. Il ne doit pas y avoir de pauvreté dans un pays.
C'est une idée très importante chez Geneviève de Gaulle, c'est que la pauvreté, ça n'est pas seulement une injustice sociale ou économique, mais c'est avant tout une injure à la démocratie et à la République. Et un des trois mots de notre devise, qui est la fraternité. Et pour elle, tant que la République tolérera la présence de bidonvilles, la présence d'exclus, qu'elle fera tout pour ignorer et pour maintenir à l'écart, tant qu'il y aura ça, la République ne sera pas souveraine d'une certaine façon. Elle sera amputée d'un de ses fondements.
On est dans un temps où vraiment il faut commencer à réfléchir. Je pense qu'on aurait dû le faire d'ailleurs déjà. On l'a fait un peu d'ailleurs. En particulier après cette guerre. On pouvait commencer à penser à ces problèmes-là. On y a un peu pensé. Il y a eu des choses qui ont été faites. Il y a eu quand même, il ne faut pas oublier que... Enfin, tout ce qui a été positif dans toutes ces années qui ont suivi la guerre. Mais maintenant, il faut se reposer le problème. C'est comme avec soi-même, vous savez. Le pire, c'est la bonne conscience. Si une personne humaine a une bonne conscience, elle ne fera plus jamais aucun progrès, elle dégringolera. Et si un peuple a une bonne conscience, c'est pareil. S'il ne se remet pas en question, s'il n'accepte pas de s'examiner lui-même. Après tout, au moment des élections, c'est le bon moment pour le faire. C'est vrai que, en ce sens-là, je suis politique parce que je veux m'adresser à chaque candidat à la présidence de la République pour lui dire voilà ce que nous vous demandons, et sinon nous ne voterons pas pour vous.
Pour Geneviève, le fil conducteur, elle le retrouvera à Télécarmande, mais c'est l'égale dignité de tous les êtres humains. J'ai discuté avec elle longtemps, puisque je l'ai remplacée comme vice-présidente d'abord, pour faire passer la loi exclusion. Et elle voulait, comme moi, que dans l'article 1 de la loi exclusion, on dise la loi contre les exclusions, virgule, fondée sur le respect de l'égale dignité de tous les êtres humains. Alors, la bataille sur l'égale dignité, c'est pas inutile de rappeler ça. C'était une bataille avec une partie du monde associatif et une partie surtout de la technocratie juridique, pour employer des termes simples. En disant dignité, c'est un terme général, c'est etc. Alors, c'est pas du tout un terme général. L'égale dignité, c'est l'article 1 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. La déclaration de 89, ce qu'elle a de nouveau, c'est dire les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. C'est pas vrai. Ils naissent pas égaux en droit, ils naissent prodigieusement inégaux. C'est René Cassin, français, juriste de la France libre, on retrouve le Londres, qui se met d'accord par rapport à la déclaration de 89 pour ajouter égaux non pas en droit, mais égaux en dignité et en droit, en donnant un fondement éthique, un fondement moral, fondement civique. L'égalité, c'est le fondement moral d'une égalité du droit. Sinon, le droit lui-même, il est menteur et hypocrite. Pour qu'il y ait égalité des droits, il faut qu'il y ait égalité d'unité. C'est elle, elle voit le prolongement de son combat, premier de résistante, dans cette lutte pour l'égale dignité des pauvres. Elle va obtenir ce qui est rarissime, je ne sais même pas si ce n'est pas le seul cas, enfin, en tout cas c'est un des rares cas, où le rapporteur du Conseil économique et social est attendu par l'Assemblée. Et c'est elle qui était toute menue, là aussi, montant à la tribune de l'Assemblée, et parlant, alors en plus, c'était une de Gaulle qui parlait, c'était la présidente de Télécarmande, c'était la membre du Conseil économique et social. C'est vrai que ça redonne du sens, ça fait bouger les lignes traditionnelles des uns et des autres.
ATD, nous, c'est aide à toute détresse, c'est-à-dire de sortir de la misère les familles les plus pauvres, sans que ATD reçoive des meubles, des vêtements, faire d'un stock de dons. Nous, c'était pour les lois, pour avoir nos lois, le droit au logement, le droit à la santé, le droit à la culture, le droit de... C'est pour aider les familles à s'en sortir de la misère. Et quand elle parle aux parlementaires, nous, on était en haut. On la voyait bien. On lui disait, c'est bien, c'est bien. On avait hâte que ça soit fini pour savoir s'il attend le résultat. Et puis, quand elle a fait la loi et qu'on lui a dit, bon, on accepte, alors on a tous crié, merci Geneviève. On n'a pas attendu qu'on était dehors pour l'acclamer. Et quand on est descendu et tous, on l'a mis autour d'elle et puis on l'a embrassée. Et ça me dira, ça m'a marqué.
Je me rappelle plus sa formule. Elle avait une formule qu'elle m'avait dite. Parce qu'elle n'avait pas comme ça une foi aveugle, pas du tout. C'était une foi qui était presque plus un espoir qu'une foi. J'ai oublié sa formule, mais c'était comme quelque chose comme ça.
Vous savez, elle, la foi, c'est pas la foi aveugle, mais c'est pas la foi qui exclut les autres. La foi est faite pour suppléer à l'insuffisance des sens. Quand la volonté faillit, quand le cœur s'émeut, et qu'on sait pas que faire, là, il faut que tout l'être humain se mette en route. C'est une espèce de notion de l'engagement de tout l'être humain. Et elle connaissait bien les mystiques, faut pas croire. La foi des mystiques, c'est traverser ce qu'on appelle la nuit obscure, c'est Thérèse d'Avila, où on doute de tout, on doute de l'existence de Dieu. Mais on traverse la nuit obscure. C'est le titre de son premier livre, « Traversée de la nuit ». La foi, ça peut être une nuit. Elle termine en disant « Quand on la libère, voilà, tout ça, tout va mal, je vais voir, mais peut-être que demain, l'aube se lèvera sur l'espérance. » Il ne faut pas espérer d'espérance. Et son deuxième livre, qui s'appelle donc « Le secret de l'espérance », qui est le secret de la fraternité, mais il se termine pareil, « L'espérance permet de penser qu'au-delà des doutes de la foi, on ne se bat pas pour rien, on ne vit pas pour rien, la vie a un sens. » C'est très cohérent, mais ce n'est pas dogmatique, ce n'est pas un catéchisme, c'est l'engagement d'une vie.
C'est comme ça qu'on commence, en disant « hors d'ici les étrangers », ou alors... Ou quand on commence à dire les Juifs ou les Algériens ou tout ce que vous voulez, ils ne sont pas des gens comme nous. On entend encore ces propos-là. C'est toujours un début. Hein. Alors, c'est en ça que nous sommes un peu les veilleurs dans la nuit, parce que nous savons jusqu'où ça va à nous. Et je crois que les très pauvres sont aussi, à leur manière, des veilleurs dans la nuit, et ceux qui les écoutent aussi. Regardez ce qu'on peut devenir si on vit dans telle et telle condition. Regardez, vous savez, ce mot terrible, je crois que c'était de Himmler, « Jetez-les dans la boue et deviendront de la boue ». J'ai souvent pensé à ça, en voyant la boue comme ça dans les lieux de misère. Ce qui a tout de même changé depuis 1958, c'est que les pauvres commencent à parler maintenant. Ils ont été, quand je les ai rencontrés au début, ils ne pouvaient pas parler. Où ils poussaient des hurlements, où ils se taisaient. Et moi, je comprenais très bien ça, parce que c'est vrai que c'est très difficile de parler. Ben maintenant, ils ont appris à parler. Maintenant, ils vont en délégation rencontrer le président de la République ou le Premier ministre, et ils ont des choses à lui dire. Et ils les écoutent, et ils ont une dignité pour les dire. Ils ont besoin de gens encore engagés avec eux, parce qu'il faut les aider à cette prise de parole, il faut les aider à se formuler, il faut les aider à s'y préparer. Ils ne sont pas encore tellement nombreux non plus à pouvoir l'apprendre. Mais je pense que quand on est là, on est dans la bonne voie. Et eux, alors, eux, ils sont des veilleurs dans la nuit aussi. Ils empêcheront notre société de se perdre complètement, notre démocratie de sombrer, si on les écoute.
Merci à Anis Postel-Vinet, ancienne résistante déportée à Ravensbrück, à Mauricette Simon, militante d'ATD Quart-Monde, à Frédéric Naud-Dufour, historienne et biographe de Geneviève de Gaulle-Antonioze, à Paul Bouchet, ancien président d'ATD Quart-Monde, et à Philippe Antonioze. Merci également à Marie-Hélène Grard, Véronique Davienne et Isabelle Gaggini. Lecture des extraits de La Traversée de la Nuit et du Secret de l'Espérance, Nathalie Procoris. Prise de son, Mathieu Tourin. Archivina, Denis Forget, attaché d'émission Claire Poinsignon, mixage Julien Douminc. Un documentaire de Victor Massé de Lépinay et Ghislaine David.
Y a une chose que je voudrais bien que ça soit la conclusion de cet entretien, c'est qu'une fois on était en train de manger ensemble à Pierrelaye. Et tout en parlant après un repas, j'étais à côté d'elle et puis j'ai dit « Geneviève, vous savez, le combat que vous menez, c'est fort. » Je lui ai dit « Vous savez à quoi je vous compare ?» Elle me dit « Non. » Puis avec un sourire, elle me dit « Dites-le, il y a une fée. » Elle me dit « À une fée ?» Elle me dit « Non, je ne suis pas une fée. » Je lui ai dit « Oui, bien sûr, vous n'avez pas la baguette magique pour... » Je lui ai dit « Mais à une fée, parce que vous défendez bien nos conditions de vie. » auprès du gouvernement. Elle me dit, si je suis une fée, elle me dit, Mme Simon, vous êtes nos anges, vous êtes mes anges. Je dis, ah non, je dis, on en est loin. Elle me dit, si, parce que si vous n'étiez pas là pour raconter votre vie de misère, la fée ne pourrait pas réagir. Et ça m'a toujours resté gravé. La conclusion, elle est là, hein.
«
C'était Une vie, une œuvre, une émission proposée par Martin Kénéen avec la complicité de Claire Poinsignon. Réécoute, podcast, commentaires et vivifiants compléments sur la page de notre émission sur franceculture.fr. La semaine prochaine, dans Une vie, une œuvre, dans le cadre des révisions du bac et pour porter un regard aussi critique qu'éclairé sur le bel aujourd'hui, redécouvrez Karl Marx. Et dans un instant, sur France Culture, c'est le temps des écrivains de Christophe Onodibio.